donc l'idée c'était de travailler un petit peu à la question de l'intermétier, mais de le situer et donc de prendre l'exemple de la formation. Donc je vais bien me baser sur le travail qu'on a fait avec une équipe de pilotage d'un réseau d'éducation prioritaire. Et donc autour de deux questions, à la fois de voir un petit peu de quoi on parle quand on parle de formation en éducation prioritaire, et puis après d'aller voir un petit peu justement du côté du travail et de dire mais qui fait quoi de la conception à la mise en œuvre. Alors pour commencer, le souci qu'on a eu quand on a commencé à travailler ces questions-là, et d'ailleurs on l'a aussi travaillé avec la DGESCO et le ministère qui a aussi mis en place un groupe de travail autour de la question de l'intermétier, c'était de le définir. C'est quoi l'intermétier? Qu'est-ce que ça permet de penser? Qu'est-ce que ça permet de voir? Et donc, on est passé sur cette idée, essayer de définir ce que c'est que le métier. Donc là, on s'est appuyé sur les travaux d'IFCLO, dont on a parlé tout à l'heure, donc en ergonomie du travail, avec cette idée qu'en fait, faire son métier, c'est à la fois... on est du côté de l'histoire, c'est-à-dire qu'on prend un genre professionnel particulier. Mais faire son métier, c'est aussi lui donner un style singulier. Et là, on est dans l'activité située et adressée. Donc cette définition du métier qui sera à la fois du côté du genre professionnel, c'est-à-dire de l'histoire et qu'on adopte, et puis du style, ou comment chacun va faire son métier à sa manière, à sa patte. Alors, voilà, le métier, ce serait ça. Et alors, l'intermétier, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait... J'ai pas de définition à vous donner toute faite, parce que c'est... Mais en tout cas, ce que ça permet de penser, en tout cas, ça permet déjà d'écrire les activités. L'intermétier, c'est d'abord des activités de travail. Qu'est-ce que sont que ces activités? Ça permet aussi d'avoir un regard sur la manière dont chacun des métiers va porter un regard particulier sur ses objets de travail. Finalement, chaque métier porte un regard particulier sur... donc là, sur la formation, on voit bien que sur... comment ça peut se décliner. Et puis aussi, cette idée d'intermétier, on se disait que ça permettait aussi de penser un peu ces excroissances dont parle Françoise Lantôme, toutes ces activités qui sont un petit peu extérieures au métier et qui se développent et qui vont peut-être aller chercher vers d'autres métiers. Donc je ne vais pas vous embêter plus que ça avec ces définitions. Elles sont dans le texte que je vous ai montré sur le site du Centre Alain Savary. Mais c'était juste pour situer un peu ce qu'on peut entendre par l'intermétier. Alors, évidemment, le travail collectif, le travail intermétier, il est d'abord collectif. Et donc, on y reviendra tout à l'heure. Donc de quelle formation parle-t-on ? Alors, je suis allée voir du côté du référentiel, puisque l'éducation prioritaire, il y a un référentiel et il y a des éléments sur la formation continue, sur la formation des nouveaux arrivants, sur la formation continue et sur l'accompagnement. Je ne vais peut-être pas vous en faire une lecture, mais c'est quand même ça le cadre de ce que c'est que la formation en éducation prioritaire. Et on voit qu'on a quand même au moins... une phrase qui dit « au moins une action de formation est mise en œuvre chaque année pour le réseau ». Je ne sais pas si partout, si vous pourriez témoigner que ça a bien lieu, mais en tout cas, c'est le minimum qui nous est demandé. Et puis après, il y a une forme de description de ce que doit être cette formation, qui répond à la diversité des besoins en fonction des parcours et expériences professionnelles des personnels, et puis que la place du projet de réseau, dans ces questions de formation, qui expriment les besoins de formation, organisent le programme de formation du réseau avec les centres de ressources et dans le cadre des plans de formation du premier et du second degré. Donc là, on voit bien que le travail collectif interdegré, il va avoir sa place autour de cette question-là. Alors, donc nous, cette année, on a mené un travail exploratoire avec une équipe de pilotage, et donc on a assisté à leur première réunion. À leur première réunion au début de l'année, c'était en septembre 2015, et donc c'était un peu une réunion de cadrage. Donc c'est un comité de pilotage, il est intitulé comme tel, mais on voit bien qu'on est, on est sur un comité de pilotage qui pourrait être sous une forme équipe de pilotage élargie. C'est autour de la table deux directeurs d'école. Qui sont choisis désignés, choisis, qui postulent On a l'IPR référent, enfin les pilotes, IPR référent, chef d'établissement, IEN. On a de manière un peu exceptionnelle l'IPR qui pilote les questions d'éducation prioritaire d'un point de vue académique. Et puis un coordonnateur et conseiller pédagogique. Donc voilà une équipe de pilotage qui se met en place, et c'est le mois de septembre, et se pose un certain nombre de questions, notamment celle de la formation. Je vais vous faire, alors pour des raisons d'anonymat, je ne peux pas vous passer l'extrait du film, mais je vais vous lire, enfin on peut lire ensemble, mais je pense que ce serait mieux que je le lise, un extrait de ce qui se dit autour de cette table au moment de parler de la formation. Donc l'IAIPR référent, vous avez dressé un premier état des besoins de formation, qu'en est-il ressorti ? Coordonnateur, ça, donc elle prend les docs, ça recoupait les besoins plus généraux qui ont été évoqués. L'IAIPR, donc éducation prioritaire, académique, bon recensement des besoins, mais il va falloir articuler avec le socle. Si c'est apprendre avec les tablettes numériques, apprendre quoi ? Est-ce que c'est apprendre autrement ? On est dans le domaine 2 du socle et à ce moment-là, on a besoin de l'outil. Il va falloir être très précis de façon à ce que votre demande soit bien entendue par un formateur qui va bien exactement prendre en compte ce que vous voulez, sachant que le cœur du réacteur, c'est le socle. C'est la réussite pour tous les élèves. Mais ça peut être une file aussi pour les personnels. Alors l'IEN... En sachant que ces axes-là ont été envoyés à l'IA et je ne sais pas du tout ce qui va en descendre. Et si on n'aura pas des orientations d'une part, et d'autre part, ils peuvent être nourris au-delà des seules journées de formation fil qu'on a évoquées ou pas. L'IAIPR, éducation prioritaire, par quel biais dans l'établissement ? L'IEN, c'est-à-dire que nous, on a de la formation en élémentaire. Ah, premier degré ! L'IEN, c'est cette superposition, l'IAIPR, éducation prioritaire, cette articulation et qui est compliquée. Alors, l'IAIPR référent, il y a des moyens, mais il faut arriver à les faire fonctionner ensemble. Et ça, c'est compliqué. L'IAIPR, éducation prioritaire, vous avez déjà bien travaillé. Hein. Il y a des choses qui émergent. C'est un problème de mettre en lien, de cohésion. Et je vous entendais parler de contrat d'objectif. Normalement, le contrat d'objectif, c'est le contrat de réseau. Bon, mais moi, quand je regarde la liste, je serais bien embêtée si j'étais formateur académique de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc voilà. Voilà, l'espace. Donc voilà, on voit bien à la fois, parce que ce qui s'est posé pour eux, et on les a suivis toute l'année, donc là c'était la réunion de rentrée, et voilà, on continue à les suivre. Mais ce que ça pose, cette discussion, dans cet échange autour de la table, c'est bien déjà de quel type de formation on parle, quels sont les temps de formation et les modalités de remplacement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette année, vous l'avez déjà dit hier, la formation, c'était extrêmement compliqué, puisqu'il y avait à la fois la formation éducation prioritaire, mais il y avait aussi de la formation premier degré, puis il y avait la formation second degré, qui, elle, était plutôt basée sur la réforme du collège. Et donc, tout ça est venu focaliser. Et on voit bien que même dans la connaissance que chacun a des fonctionnements et de la manière dont les formations se mettent en place, c'est pas du tout clair. En fait, finalement, cette réunion de cette équipe de pilotage, c'est d'abord un échange d'informations, c'est-à-dire « Ah oui, ah bon, ah parce que vous avez passé vos informations par le biais du canal du DAZN, mais nous, on n'est pas au courant, enfin, voilà. » La question des temps de formation, alors je pense que vous l'avez tous vécu, en tout cas, là, oui, j'ai oublié de dire, c'est un REP+. Hein. Donc, ils ont un petit peu de moyens, voilà. Et donc, ils ont eu quand même un vrai souci, malgré ces moyens, à articuler les temps de formation, premier et second degré. La question de l'interdegré, c'est-à-dire que finalement, les temps de pondérations qui ont été données au premier ou au second degré n'ont pas du tout anticipé cette question de la rencontre des personnels et que finalement ils ont un mal de chien à inventer les formes qui vont permettre à un moment à ces formations d'avoir lieu. Donc première vraiment qui nous a vraiment frappé hein, dans les problèmes que ça pose à ces personnes, hein, c'est vraiment échangeons savoir qui autour de quoi on parle quand on parle de formation, est-ce qu'on est à quel niveau on se place et voilà. Alors sur les contenus et les cohérences, parce que évidemment ce qui est compliqué, c'est que même eux, qu'est-ce qui relève finalement d'une formation interdegré ? Qu'est-ce qui va relever de la formation du REP+ ? Mais finalement, qu'est-ce qui va le relever peut-être d'une formation qui sera plutôt premier degré et une qui sera plutôt second degré ? Ces espaces-là de discussion, ils sont pas si clairs. Puis, qui définit les contenus de formation ? Est-ce que c'est l'équipe de pilotage ? Est-ce que finalement c'est dans cette discussion ? Est-ce que c'est le conseil école-collège ? Parce que finalement, ils se disaient, bon, alors dans la réunion, on peut nous proposer quelques thématiques de formation et puis après, on va les proposer en conseil, en, conseil école-collège et que c'est là que finalement les enseignants feront peut-être le choix entre certaines priorités, etc. Et puis les liens avec qu'est-ce qu'on va faire de ces formations REP+, si ça en est une, mais avec l'animation pédagogique, parce que le conseiller pédagogique était là. Il y a toute cette question des articulations avec tout le reste qui se pose. Et puis il y a la question de mais qui fait quoi dans ces formations, quoi. Alors on a essayé de faire un espèce de schéma qui pourrait représenter tous les métiers qu'il y a dans un REP+. Alors, comment ?
Le nuage, on en a parlé ce matin.
Ouais. Donc avec un côté qui serait premier degré, un côté qui serait de second degré, et puis là je vous ai mis en rouge toutes les personnes qui pourraient être concernées par la formation, toutes les personnes qui pourraient travailler ensemble, hein, voilà, qui pourraient faire un collectif intermétier pour travailler sur la formation. Alors évidemment l'équipe de pilotage, IEN, IAIPR, chef d'établissement, le coordo qui est pas loin là, qui est à côté, le conseiller pédagogique évidemment en premier degré, mais les formateurs REP+, ou le CAREP s'il y en a un, enfin voilà, mais peut-être aussi quand même les formateurs d'AFOP, les formateurs du second degré, et peut-être aussi les IAIPR disciplinaires qui eux-mêmes sont formateurs. Donc on voit bien à quel point la question de la formation dans l'intermétier, elle est compliquée à même imaginer mettre en place. Donc je continue sur cette question-là avec la suite de l'extrait, que je vais peut-être pas lire entier, mais en tout cas au moins les deux premières. Donc aujourd'hui, on est au niveau de la thématique, dit l'IAIPR référente. Il faut cerner l'objet d'étude. Alors le conseiller pédagogique, l'objet d'étude, pour le premier degré, on a commencé à l'évoquer avec la formatrice, Madame X, puisque elle a eu connaissance de ces grands thèmes. On a commencé à décliner avec elle en termes de problématiques, justement. Ce sera précisé avec l'IEN dans les rencontres avec Madame X. Et donc là, l'IAIPR, il faudrait que vous arriviez à partager un diagnostic commun entre premier et second degré. Je vais juste m'arrêter là sur cet élément qui, nous, après, sur lequel on a travaillé en autoconfrontation avec chacun des personnes qui étaient dans la réunion, pour essayer de comprendre un petit peu, finalement, mais comment ils travaillaient, quoi. Et finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est la grande division, finalement, après du travail, quand il s'agit de mettre en place ces formations. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont choisi des thématiques, qui commence à avoir une thématique, en fait, c'est presque ça pourrait être une commande faite à la formatrice REP+. C'est-à-dire, en gros, elle, c'est une commande. Donc, si je reprends une diapo de Patrick, voilà, mais elle est où, la formatrice académique, au moment où on parle de... Elle n'est pas là. Elle n'est pas là dans cette réunion. Après, en analysant avec le coordonnateur, le conseiller pédagogique, l'IEN, etc., on se rend compte que finalement, il y a une grande division du travail qui fait qu'il y a ceux qui vont choisir la thématique, enfin voilà, qui vont commencer à réfléchir. Et puis, alors le coordinateur, lui, il est chargé d'inventer les formes, en tout cas pour le premier degré, des remplacements, de voir un peu comment ça s'articule, et là de faire une forme d'organisation, et qu'après il est chargé de donner les informations aux formateurs académiques pour dire voilà, t'as telle personne, machin, et c'est ça la commande. Alors c'est là où le terrain est toujours intéressant, c'est que finalement la cohérence, ils se la sont inventés de manière informelle. C'est-à-dire que le conseiller pédagogique, qui lui n'était pas censé travailler sur les formations REP+, parce que en fait, voilà, on l'a pas chargé de cette formule-là. Mais lui, il est conseiller pédagogique quand même sur ces écoles-là. Il les connaît, il les suit depuis des années. Donc il a une connaissance du terrain et de ce qui s'est fait depuis des années sur ces choses-là. Et donc en fait, ils se sont presque créés un petit collectif à trois, qui n'a pas de statut ni de voilà, mais que dans lequel eh bien, ils ont essayé de se dire, bon, on va essayer de donner un peu de cohérence à tout ça, et que finalement, ok, la thématique, on va la décortiquer à trois, et on va se donner peut-être des vrais objectifs ensemble de formation, et puis on va réfléchir ensemble à l'organisation, même si c'est quand même beaucoup le coordonnateur qui est chargé de ça, et puis on va quand même accompagner la formatrice REP+, dans l'ingénierie, c'est-à-dire on ne va pas non plus juste lui faire une commande et on va lui dire, tiens, bon, comment on peut t'aider à travailler ensemble. Par contre, dans la mise en œuvre, c'est pas eux. C'est-à-dire que c'est la formatrice Red Plus. Donc ce qui nous semble, enfin ce qui nous a semblé vraiment, et je vais le poser vraiment assez benoîtement sous la forme de questions, mais au fond, quand on parle de formation et de collectif intermédiaire autour de la formation, c'est qui? Mais ce qui, évidemment, c'est pas une personne, c'est un collectif. Mais qui fait la remontée des besoins, au fond? Parce qu'il y a ça aussi, hein. C'est quoi les besoins? Qui définit les contenus de la formation? Mais qui va organiser la formation? Qui conçoit la formation? Quel espace de travail pour les formateurs? Notamment ces espaces de travail, donc là, qui se sont inventés, mais qui ne sont pas si simples, parce qu'à la fois, il y a quand même les pilotes. Et si les pilotes ne sont pas là, comment à un moment donné, eux, on leur fait retour de ce qui se fait? Et puis, c'est des fonctions hiérarchiques, on est sur un horizontal qui n'est pas franchement un horizontal. Donc, toute cette observation nous montrait qu'à un moment, il y a vraiment besoin, en tout cas, sûrement, de formaliser, enfin qu'il y a beaucoup d'impensés en fait, et que les choses elles se passent sans que vraiment les espaces, les structures et les formes de travail soient en tout cas aujourd'hui transparentes pour les acteurs. Pour ne pas être trop longue, je vais juste finir, mais dans tout ça, quel est le rôle du coordonnateur dans l'information? Parce que, au fond, le parti pris, hein, c'est de se dire, bon, ce collectif intermédiaire, c'est lui qui va être le gage de qualité dont parlait Patrick tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, ce collectif, c'est ça qui va permettre à un moment donné de la cohérence, du sens dans tout ce qu'on va faire par rapport, et peut-être aussi une approche systémique, c'est-à-dire comment la formation, elle est bien dans peut-être le souci central qu'on s'est posé, si je reprends le terme de j'oublie le nom, de monsieur Gilles
Jeannot.
Mais voilà, de monsieur Jeannot. Mais comment à un moment, c'est cette travail intermédiaire qui va permettre de penser collectivement ce souci-là et de le mettre en œuvre. Mais après, la question, parce que je vais revenir à vos questions d'hier, c'est-à-dire la légitimité. Et j'en parlais de façon diffuse dans les formats. C'est quelle autorisation le coordonnateur, il se donne à travailler sur ces questions-là, et qu'elle, finalement, comment lui peut se sentir en effet un dégage de la qualité. Et parce que, voilà, coordonnateur, je suis moi-même, je ne suis pas formatrice. Je ne suis pas estampillée formateur, je n'ai pas le CAFIPEMF, je n'ai pas le CAFA, voilà. Et n'empêche qu'on va travailler avec des formateurs. Mais comment on arrive à définir, justement, quel est l'apport du coordonnateur pour le poser au psy auprès des pilotes et dans ce collectif? Donc je vais pas être plus longue, mais voilà les questions sur lesquelles on voulait.
J'ai l'impression que tu as parlé de moi tout le
temps. C'est vrai, j'ai parlé de toi. Wow. Moi c'est à toi.
Donc en fait, c'était pas moi, mais j'ai l'impression que Lydie parlait de moi finalement. Donc je suis coordo d'un REP qui n'a que deux écoles, mais en à peu près 1200 élèves à la frontière avec Genève en Haute-Savoie. Donc c'est l'académie de Grenoble, dans laquelle il y avait jusqu'à pas très longtemps pas de chargé de mission éducation prioritaire et pas de formateur académique éducation prioritaire. Voilà. Et en fait, quand je dis que j'ai l'impression qu'elle parlait de moi, c'est qu'à un moment donné, hier dans les vidéos, je disais que je me posais la question de la légitimité. Alors un passage qui n'a pas été montré, c'est que j'ai l'impression moi de l'avoir trouvé cette légitimité à partir du moment où j'ai pris en charge le volet formation du réseau. Et je suis un peu devenue formatrice par la force des choses, sachant qu'en plus, ma grosse difficulté, ça faisait 5-6 ans, je ne sais plus combien de temps que je suis sur ce réseau, Cordo, alors c'est un RRS dans les derniers années et qui n'était pas RRS, et j'ai créé ce poste, et on m'a dit d'ailleurs que quand j'avais demandé au directeur académique ce que je devais faire, parce que j'avais une lettre de mission très floue, que c'était formidable puisque j'avais tout à inventer. Voilà. Et du coup, ma grande difficulté, c'était comment créer un réseau et une culture de réseau. C'est vraiment le faire vivre en réseau. Parce que les projets, toutes ces choses-là, je pense que c'est assez formel, on arrive à le faire, c'est dans nos fonctions. Mais après, rendre vivant le réseau et ne pas être le seul acteur qui s'agite dans tous les sens dans le réseau, c'est un peu, je trouve, la difficulté, surtout dans des réseaux émergents qui n'ont pas cette culture de réseau ancienne. Et j'ai essayé de m'escrimer avec plein de différentes manières possibles pendant plusieurs années, avant d'arriver à une mise en œuvre collective. Alors, la différence, c'est que dans le plan de formation qu'on a mis en place, qui s'est fait de manière... sais pas comment. Alors ça s'est amené parce que j'ai assisté à un forum pédagogique à Valence, parce qu'à Valence il y avait le collectif, je sais pas comment l'appeler, Sylvain Joly et Séverine Thibault, donc qui travaillaient ensemble. C'est un IEN et puis une Cordeau, une ancienne Cordeau.
Juste si vous voulez voir, vous tapez sur le site du Centre Alain Savary, forum Joly Valence.
Voilà.
Et vous verrez la vidéo de ce dont elle parle.
Merci. Et je me suis sentie beaucoup moins seule et je les ai tannés pour qu'ils viennent dans mon réseau. Et à partir de là, on est rentré dans un dispositif où en fait, la manière de fonctionner, c'est qu'ils sont des formateurs, mais ils viennent filmer des séances de cours. C'est surtout orienté sur les élèves, sur des entretiens d'élèves. Et à partir de là, on fait émerger des problématiques en fait. Et ça s'est fait de manière collective. Donc on a invité à cette première rencontre. C'était en interdegré, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois les professeurs du collège et tous les maîtres plus de mon école. Et on est parti des maîtres plus, donc du dispositif plus de maîtres que de classe, pour arriver finalement aujourd'hui à quasiment une formation interdegré, enfin non, pas quasiment, à une formation interdegré école-collège sur la co-intervention. C'est l'objet essentiel des réflexions actuellement. Mais les problématiques, elles sont nées de la... Qu'est-ce qu'il y a ?
Okay.
Les problématiques sont nées du terrain. Donc voilà, donc c'est les questions de formation sont montées du terrain. Moi, j'ai fait que les en tant que cordeau, que les formaliser ou les verbaliser. Après, j'ai beaucoup travaillé avec le CPC. Alors, il devait être là ce matin, mais comme il y a une grève des trains, il n'a pas eu de train, donc il n'est pas là. Et on a beaucoup travaillé ensemble ces quatre dernières années, justement, pour faire le lien entre le premier et le second degré. Et on aboutit maintenant à des... On va de plus en plus loin sur les problématiques, sur comment généraliser la co-intervention éventuellement sur le cycle 4 au collège ou des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai fait assez vite. Mais oui, c'est... Et alors, sur la place du cordeau, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être le relais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les formateurs ne peuvent pas assurer un suivi vraiment régulier de la formation sur le terrain. Et je pense que le cordeau a son rôle à jouer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est que je suis devenue le relais entre les formateurs et les équipes. Et c'est comme ça que la dynamique s'est maintenue. Parce que je pense que s'il n'y a pas quelqu'un sur place, pas au quotidien, mais un peu assez souvent pour aller même filmer dans les classes ou revoir les collègues, assister à des cours, des choses comme ça, on va pas, ça se perd, ça s'étiole. Voilà. Et c'est un peu le format qui est en train de se mettre en place sur l'académie avec ce dispositif de formation qui va être appliqué à tous les établissements d'éducation prioritaire. Et je crois que les chargés de mission veulent s'appuyer sur les cordeaux comme relais de formation, justement.
Alors, moi, je vais vous parler du dispositif plus de maîtres que de classe qu'on a mis en place sur notre réseau, donc notre REP, non pas REP+. Bien sûr, je me retrouve dans ce que vous dites et dans ce qui est dit. Je vais peut-être plus partir vraiment de la mise en place du dispositif plus de maîtres que de classe, parce que tout à l'heure tu parlais d'horizontalité ou de partage, donc nous on est plutôt sur un réseau et par rapport à ce dispositif dans un partage vraiment que je vais appeler tout de suite horizontal avec l'IEN, la conseillère pédagogique, les maîtres plus, les enseignants, les directeurs, enfin on a réussi je pense à mettre en place quelque chose qui fonctionne bien et qui est un vrai travail collectif. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment ça s'est construit. Et ce que je vais vous dire vient aussi des questionnements que j'ai posés avant de venir aux maîtres plus, aux enseignants des classes qui sont dans ce dispositif et à la conseillère pédagogique avec laquelle je travaille. Alors, donc c'est un peu une synthèse de ce qu'ils m'ont dit que je vais vous donner là, sachant donc que ce dispositif a démarré il y a 3 ans. On est sur un REP qui a 5 écoles élémentaires. Donc il y a 3 ans, il y a eu un poste de maître plus qui a commencé à travailler sur 3 écoles, donc le cœur du réseau. Juste, je voudrais dire qu'au départ, mais ça vous l'avez sûrement tous connu, il y avait une grande réticence des enseignants à accepter que d'autres maîtres rentrent dans la classe. Au départ, l'IEN a cadré les choses en disant « on travaille sur le cycle 2, CPCE1, les apprentissages de la lecture, de l'écriture, des fondamentaux ». Et puis il a donné un deuxième cadrage qui était les maîtres plus sont dans la classe, ne sortent pas de la classe, c'est vraiment de la co-intervention. Et voilà, c'était les 2 éléments qu'on avait avec un maître plus sur 3 écoles, donc 6 classes, 3 CP, 3 CE1, et le maître plus se partageait. À la fin de l'année, le bilan était positif, mis à part que c'était un peu difficile d'intervenir sur 6 classes différentes. Donc il y a eu un deuxième maître plus qui a été nommé sur toujours ces 3 écoles. Donc on a avancé, c'était toujours très positif, je passe le détail et les bilans. Et donc cette année, il y a eu un troisième maître plus qui a été embauché, donc ce ne sont que des maîtresses plus d'ailleurs, qui ont été embauchées et qui travaillent maintenant sur les 5 écoles, donc sur l'ensemble du réseau, et elles se partagent donc les écoles. Je vous raconte ça parce que je pense que c'est vraiment à partir du travail qui a été fait dans les classes, avec les élèves, avec les enseignants, du coup, dans l'école, dans les conseils de cycle, avec les autres enseignants, avec la place que les directeurs ont fait aussi au maître plus dans l'école, que petit à petit s'est créée cette dynamique de réseau autour du dispositif. Il y a eu des échos qui ont eu lieu dans les autres classes, de par le partage qui était fait. Et c'est parce qu'à un moment donné, toutes les classes ont été concernées, enfin toutes les écoles ont été concernées, qu'il y a pu avoir aussi de la formation, des concertations qui ont réuni les pilotes, conseillers pédagogiques, coordinatrices et enseignants, maîtres plus et enseignants titulaires. Et ça me paraît vraiment important parce que ça s'est construit sur ces 3 années. Voilà. Je vous donne juste le pas pour parler un petit peu de cette coopération des différentes personnes. J'ai une maître plus qui m'écrit, voilà, chaque acteur a son importance. L'inspecteur nous donne la direction à suivre, les grandes lignes, et il nous fait confiance. Alors c'est important parce que je crois que cette confiance, elle a joué dans la dynamique qui a été créée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je prends un exemple, les maîtresses plus disent il nous faut absolument créer des outils communs qui nous permettent par exemple d'évaluer les élèves de CP en évaluation diagnostique en début d'année. Et on s'est rendu compte que chacun faisait son évaluation et que finalement c'était difficile quand on se retrouvait pour travailler ensemble parce qu'on n'avait pas les mêmes critères d'évaluation. Voilà. Donc on n'a pas obligatoirement des temps de formation, de concertation qui sont institutionnalisés. On en a, mais là pour ça on n'en avait pas. Et donc les maîtresses plus demandent par exemple d'avoir une demi-journée libérée le dernier vendredi après-midi de chaque période. L'IEN a accordé cette demi-journée. Et du coup, là, il y a un temps où on peut travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça que j'appelle la confiance. Et je pense que lui sait dans quel... Enfin, il nous a donné le cadre, il sait dans quel état d'esprit on travaille. Et il est très arrangeant pour nous permettre justement de travailler et d'avancer. Quand elle parle de la conseillère pédagogique, elle dit « La conseillère nous apporte des solutions, elle nous oriente dans les choix et trouve des solutions face aux problèmes rencontrés. » Elle nous aide pour mettre en place un travail différent. Elle apporte aussi un regard réflexif sur la co-intervention, sur les modalités de la co-intervention. Et voilà, en ça, elle prend toute sa place. Quand elle parle de la coordinatrice, elle nous pousse à avoir une vision plus grande que l'école et fédère le REP. Elle est l'instigatrice d'une culture REP dont tu parlais tout à l'heure.
Juste te dire, le statut de ces écrits que tu nous cites, là, peut-être que je n'ai pas été attentif, mais...
Ah, j'ai questionné, avant de venir, j'ai questionné...
Elle a bossé.
Elle a préparé, en fait.
En fait, il y a 2 jours, j'ai envoyé un mail à mes collègues, je leur ai dit, est-ce que vous pourriez m'aider? Je vais devoir parler du dispositif plus de maître de classe dans le cadre de... Je vous dis ce que je leur ai dit, si vous voulez. L'idée est de réfléchir à l'articulation... Attendez, je m'aide un peu. Voilà, des différents métiers au sein de l'école, à la façon dont les professionnels ayant des fonctions et des missions différentes interagissent au sein d'un même dispositif. Donc je passe, voilà, je suis intéressée pour recueillir des éléments et votre point de vue sur la façon dont on s'organise au niveau du travail collectif et votre point de vue aussi sur ce travail collectif. Quels sont les types de coopération? En quoi chacun de nous contribuons à la réussite et l'efficacité du dispositif, et puis quel impact ce dispositif a sur la réussite des élèves.
Je te demande de ne pas mettre le dos, parce que vous voyez que ce n'est pas quelque chose auquel vous allez penser dans l'ordinaire de votre travail. Et hier, Coralie nous a indiqué combien les questions du pilotage étaient des questions qui étaient absentes des préoccupations des collègues. Les collègues ne se questionnent pas sur le pilotage. Ils disent juste « ça va » ou « c'est le bordel ». C'est comme ça qu'ils disent. Et là, le fait d'attirer leur attention sur... Mais et vous, au fait, comment vous pensez que les différents métiers co-interviennent avec vous? On s'aperçoit que ça nous donne des éléments d'information pour pouvoir penser les collaborations dont les unes et les autres nous ont déjà parlé. Mais ce n'est pas quelque chose auquel on va penser si on n'avait pas à le faire dans la situation que tu nous expliques. C'est pour ça que je te demande de détailler. Excuse-moi.
Voilà. Et puis, donc en fait, pour conclure peut-être, ce qui nous semble intéressant sur vraiment ce qu'on a mis en place au niveau du dispositif, c'est que d'abord il y a des retombées positives au niveau des élèves en premier, et puis au niveau du travail collectif, au niveau du premier degré, mais aussi du second degré. Donc je cite juste aussi que donc l'année dernière, il y a eu tout un travail de co-intervention, enfin depuis 2 ans et maintenant 3 ans dans les classes du premier degré. Et puis parallèlement, l'an dernier, au niveau du collège, on a fait des expérimentations en co-intervention. Donc on a fait une expérimentation sur une classe sans notes, une autre sur... comment travailler en atelier, et puis une autre où j'ai participé qui était comment la gestion de l'hétérogénéité dans la classe, et c'était dans une classe d'italien en quatrième, donc les élèves démarrent une seconde langue, et l'idée c'était d'essayer de mettre en place des choses qui font que personne ne décroche pendant l'année dans l'apprentissage de l'italien, et puis l'évaluation du résultat elle s'est faite sur les 2 années. Et donc, on a travaillé en co-intervention. Et au dernier CEC, l'an dernier, on s'est dit, donc pareil, on trouve un peu, on mamaille des choses pour se retrouver, en fait. Et on s'est dit, on va inviter, donc la thématique du CEC, c'était la gestion de l'hétérogénéité. Et on s'est dit, on va inviter les maîtresses plus et des enseignants de CP à notre CEC pour qu'on puisse partager autour de cette co-intervention. Et là, ça a été très intéressant parce que vraiment, en fait, on est sur les mêmes terrains et les gens ont vraiment partagé. Voilà, la conseillère pédagogique était là, l'IUN était là, le principal était là, puisque c'était un CEC. Et du coup, voilà, c'est un peu le chemin qu'on fait pour réussir à avancer, travailler ensemble. Et pour ma part, je rajouterais, mais elles me l'ont dit aussi un peu toutes, vraiment pour nous, ce qui est important, c'est la communication et les échanges. Et c'est vraiment toute cette concertation formelle, parce qu'il y a une ou deux journées prévues au plan de formation pour les plus de maîtres que de classe, mais aussi informelle, qui se passe au moment de l'intervention des maîtres plus dans la classe avec les enseignants titulaires, qui se passe moi quand je suis dans les écoles ou au collège avec les uns et les autres. Et c'est cette communication permanente qui nous permet d'avancer.